Chapitre 9. Révolution du 10 août 1792. Renversement de la monarchie. L'opinion publique se montre toujours, même au milieu des factions qui l'oppriment. Une seule révolution, celle de 1789, a été faite par la puissance de cette opinion. Mais, depuis cette année, presque aucune des crises qui ont eu lieu en France n'a été désirée par la nation. 4 jours avant le 10 août, on voulut porter dans l'Assemblée un décret d'accusation contre M. de Lafayette, et 424 voix sur 670 l'acquittèrent. Le vœu de cette majorité n'était certainement pas pour la révolution qui se préparait. La déchéance du roi fut demandée, l'Assemblée la rejeta. Mais la minorité, qui la voulait, eut recours au peuple pour l'obtenir. Le parti des constitutionnels était néanmoins toujours le plus nombreux. Et si, d'une part, les nobles n'étaient pas sortis de France, et que, de l'autre, les royalistes qui entouraient le roi se fussent réconciliés franchement avec les amis de la liberté, on aurait pu sauver encore la France et le trône. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que nous avons été et que nous serons appelés, dans le cours de cet ouvrage, à montrer que le bien ne peut s'opérer en France que par la réunion sincère des royalistes de l'Ancien Régime avec les royalistes constitutionnels. Mais, dans ce mot de sincère, que d'idées sont renfermées. Les constitutionnels avaient en vain demandé la permission d'entrer dans le palais du roi pour le défendre. Les invincibles préjugés des courtisans les en avaient écartés, incapables cependant, malgré le refus qu'on leur faisait subir, de se rallier au parti contraire, ils erraient autour du château, s'exposant à se faire massacrer pour se consoler de ne pouvoir se battre. De ce nombre étaient messieurs de Lally, Narbonne, la tour du Pin-Gouvernet, Castellane, Montmorency et plusieurs autres encore, dont les noms ont reparu dans toutes les circonstances honorables. Avant minuit, le 9 août, les 48 tocsins des sections de Paris commencèrent à se faire entendre, et toute la nuit ce son monotone, lugubre et rapide ne cessa pas un instant. J'étais à ma fenêtre avec quelques-uns de mes amis, et de quart d'heure en quart d'heure, la patrouille volontaire des constitutionnels nous envoyait des nouvelles. On nous disait que les faubourgs s'avançaient, ayant à leur tête Santerre, le Brasseur et Westermann militaire, qui depuis s'est battu contre la Vendée. Personne ne pouvait prévoir ce qui arriverait le lendemain, et nul ne s'attendait alors à vivre au-delà d'un jour. Il y eut néanmoins quelques moments d'espoir pendant cette nuit effroyable. On se flatta, je ne sais pourquoi, peut-être seulement parce qu'on avait épuisé la crainte. Tout à coup, à 7 heures, le bruit affreux du canon des faubourgs se fait entendre, et dans la première attaque, les gardes suisses furent vainqueurs. Le peuple fuyait dans les rues avec autant d'effroi qu'il avait eu de fureur. Il faut le dire, le roi devait se mettre à la tête des troupes et combattre ses ennemis. La reine fut de cet avis, et le conseil courageux qu'elle donna dans cette circonstance à son époux l'honore et la recommande à la postérité. Plusieurs bataillons de la garde nationale, entre autres celui des filles Saint-Thomas, étaient pleins d'ardeur et de zèle. Mais le roi, en quittant les Tuileries, ne pouvait plus compter sur cet enthousiasme qui fait la force des citoyens armés. Beaucoup de républicains pensent que, si Louis XVI eût triomphé le 10 août, les étrangers seraient arrivés à Paris et y auraient rétabli l'ancien despotisme, devenu plus odieux encore par le moyen même dont il aurait tenu sa force. Il est possible que les choses fussent arrivées à cette extrémité. Mais qui les y avait conduites? L'on peut toujours, dans les troubles civils, rendre un crime politiquement utile, mais c'est par les crimes précédents qu'on parvient à créer cette infernale nécessité. On vint me dire que tous mes amis qui faisaient la garde en dehors du château avaient été saisis et massacrés. Je sortis à l'instant pour en savoir des nouvelles. Le cocher qui me conduisait fut arrêté sur le pont par des hommes qui, silencieusement, lui faisaient signe qu'on égorgeait de l'autre côté. après 2 heures d'inutiles efforts pour passer, j'appris que tous ceux qui m'intéressaient vivaient encore, mais que la plupart d'entre eux étaient contraints à se cacher pour éviter les proscriptions dont ils étaient menacés. Lorsque j'allais les voir le soir à pied dans les maisons obscures où ils avaient pu trouver asile, je rencontrais des hommes armés couchés devant les portes, assoupis par l'ivresse, et ne se réveillant à demi que pour prononcer des jurements exécrables. Plusieurs femmes du peuple étaient aussi dans le même état, et leur vocifération avait quelque chose de plus odieux encore. Dès qu'on apercevait une patrouille destinée à maintenir l'ordre, les honnêtes gens fuyaient pour l'éviter, car ce qu'on appelait maintenir l'ordre, c'était contribuer au triomphe des assassins et les préserver de tout obstacle. Chapitre 10. Anecdote particulière. L'on ne peut se résoudre à continuer de tels tableaux. Encore le 10 août semblait-il avoir pour but de s'emparer du gouvernement afin de diriger tous ses moyens contre l'invasion des étrangers. Mais les massacres qui eurent lieu 22 jours après le renversement du trône n'étaient qu'une débauche de forfaits. On a prétendu que la terreur qu'on éprouvait à Paris et dans toute la France avait décidé les Français à se réfugier dans les camps, singulier moyen que la peur pour recruter une armée. Mais une telle supposition est une offense faite à la nation. Je tâcherai de montrer dans le chapitre suivant que c'est, malgré le crime, et non par son affreux secours, que les Français ont repoussé les étrangers qui voulaient leur imposer la loi. À des criminels succédaient des criminels plus détestables encore. Les vrais républicains ne restèrent pas un jour les maîtres après le 10 août. Dès que le trône qu'ils attaquaient fut renversé, ils eurent à se défendre eux-mêmes. Ils n'avaient montré que trop de condescendance envers les horribles instruments dont on s'était servi pour établir la République. Mais les Jacobins étaient bien sûrs de finir par les épouvanter de leur propre idole à force de forfaits. Et l'on eût dit que les scélérats les plus intrépides, en fait de crime, essayaient la tête de Méduse sur les différents chefs de parti, afin de se débarrasser de tous ceux qui n'en pouvaient supporter l'aspect. Les détails de ces horribles massacres repoussent l'imagination et ne fournissent rien à la pensée. Je m'en tiendrai donc à raconter ce que j'ai vu moi-même à cette époque. Peut-être est-ce la meilleure manière d'en donner une idée. Pendant l'intervalle du 10 août au 2 septembre, de nouvelles arrestations avaient eu lieu à chaque instant. Les prisons étaient combles. Toutes les adresses du peuple, qui, depuis 3 ans, annonçaient d'avance ce que les chefs de parti avaient résolu, demandaient la punition des traîtres. Et ce nom s'étendait aux classes comme aux individus, au talent comme à la fortune, à l'habit comme aux opinions, enfin à tout ce que les lois protègent et que l'on voulait anéantir. Les troupes des Autrichiens et des Prussiens avaient déjà passé la frontière. Et l'on répétait de toutes parts que, si les étrangers avançaient, tous les honnêtes gens de Paris seraient massacrés. Plusieurs de mes amis, messieurs de Narbonne, Montmorency, Beaumet, étaient personnellement menacés, et chacun d'eux se tenait caché dans la maison de quelques bourgeois. Mais il fallait chaque jour changer de demeure, parce que la peur prenait à ceux qui donnaient un asile. On ne voulut pas d'abord se servir de ma maison parce qu'on craignait qu'elle n'attirât l'attention. Mais d'un autre côté, il me semblait qu'étant celle d'un ambassadeur, et portant sur la porte le nom d'hôtel de Suède, elle pourrait être respectée, quoique M. de Staël fût absent. Enfin, il n'y eut plus à délibérer quand on ne trouva plus personne qui osa recevoir les proscrits. 2 d'entre eux vinrent chez moi. Je ne mis dans ma confidence qu'un de mes gens dont j'étais sûr. J'enfermai mes amis dans la chambre la plus reculée, et je passais la nuit dans les appartements qui donnaient sur la rue, redoutant à chaque instant ce qu'on appelait les visites domiciliaires. Un matin, un de mes domestiques, dont je me défiais, vint me dire qu'on avait affiché, au coin de ma rue, le signalement et la dénonciation de M. de Narbonne. C'était l'une des personnes cachées chez moi. Je crus que cet homme voulait pénétrer mon secret en m'effrayant, mais il me racontait le fait tout simplement. Peu de temps après, la redoutable visite domiciliaire se fit dans ma maison. M. de Narbonne, étant mis hors la loi, périssait le même jour s'il était découvert, et quelques précautions que j'eusse prises, je savais bien que, si la recherche était exactement faite, il ne pouvait y échapper. Il fallait donc à tout prix empêcher cette recherche. Je rassemblai mes forces et j'ai senti, dans cette circonstance, qu'on peut toujours dominer son émotion, quelque violente qu'elle soit, quand on sait qu'elle expose la vie d'un autre. On avait envoyé, pour s'emparer des proscrits, dans toutes les maisons de Paris, des commissaires de la classe la plus subalterne. Et pendant qu'ils faisaient leur visite, des postes militaires gardaient les deux extrémités de la rue pour empêcher que personne ne s'échappât. Je commençai par effrayer, autant que je pus, ces hommes sur la violation du droit des gens qu'ils commettaient en visitant la maison d'un ambassadeur. Et comme ils ne savaient pas trop bien la géographie, je leur persuadai que la Suède était une puissance qui pouvait les menacer d'une attaque immédiate, parce qu'elle était frontière de la France. 20 ans après, chose inouïe, cela s'est trouvé vrai, car Lübeck et la Poméranie suédoise étaient au pouvoir des Français. Les gens du peuple sont prenables tout de suite, ou jamais. Il n'y a presque point de gradation, ni dans leurs sentiments, ni dans leurs idées. Je m'aperçus donc que mes raisonnements leur faisaient impression, et j'eus le courage, avec la mort dans le cœur, de leur faire des plaisanteries sur l'injustice de leurs soupçons. Rien n'est plus agréable aux hommes de cette classe que des plaisanteries, car dans l'excès de leur fureur contre les nobles, ils ont eu plaisir à être traités par eux comme des égaux. Je les reconduisis ainsi jusqu'à la porte, et je bénis Dieu de la force extraordinaire qu'il m'avait prêtée dans cet instant. Néanmoins, cette situation ne pouvait se prolonger, et le moindre hasard suffisait pour perdre un proscrit qui était très connu par son ministère récent. Un hanovrien généreux et spirituel, le docteur Bollmann, qui depuis s'est exposé pour délivrer M. de Lafayette des prisons d'Autriche, apprit mon anxiété et m'offrit, sans autre motif que l'enthousiasme de la bonté, de conduire M. de Narbonne en Angleterre en lui donnant le passeport d'un de ses amis. Rien n'était plus hardi que cette action, car si un étranger, quel qu'il fût, avait été pris en menant un proscrit sous un nom supposé, il eût été condamné à mort. Le courage du docteur Bollmann ne se démentit ni dans la volonté ni dans l'exécution, et 4 jours après son départ, M. de Narbonne était à Londres. On m'avait accordé des passeports pour me rendre en Suisse, mais il était si triste de se mettre en sûreté toute seule, quand on laissait tant d'amis en danger, que je retardais de jour en jour pour savoir ce que chacun d'eux était devenu. On vint me dire le 31 août que M. de Jaucourt, député à l'Assemblée législative, et M. de Lally Tollendal venaient d'être conduits tous les deux à l'abbaye, et l'on savait déjà qu'on envoyait dans cette prison que ceux qu'on voulait livrer aux assassins. Le beau talent de M. de Lally lui servit d'égide d'une façon singulière. Il fit plaidoyer d'un de ses camarades de prison traduit devant le tribunal avant le massacre. Le prisonnier fut acquitté, et chacun sut qu'il le devait à l'éloquence de Lally. M. de Condorcet admirait son rare talent et s'employa pour le sauver. D'ailleurs, M. de Lally trouvait une protection efficace dans l'intérêt de l'ambassadeur d'Angleterre qui était encore à Paris à cette époque. Lady Sutherland, à présent marquise de Stafford, alors ambassadrice d'Angleterre, prodigua dans ces temps affreux les soins les plus dévoués à la famille royale. M. de Jaucourt n'avait pas le même appui. Je me fis montrer la liste de tous les membres de la Commune de Paris, alors maître de la ville. Je ne les connaissais que par leur terrible réputation, et je cherchais au hasard un motif pour déterminer mon choix. Je me rappelais tout à coup que Manuel, l'un d'entre eux, se mêlait de littérature, et qu'il venait de publier les lettres de Mirabeau, avec une préface bien mauvaise, il est vrai, mais dans laquelle, cependant, on remarquait la bonne volonté de montrer de l'esprit. Je me persuadais qu'aimer les applaudissements pouvait rendre accessible de quelque manière aux sollicitations. Ce fut donc à Manuel que j'écrivis pour lui demander une audience. Il me l'assigna pour le lendemain chez lui à 7 heures du matin. C'était une heure un peu démocratique, mais certes j'y fus exact. J'arrivai avant qu'il fût levé, je l'attendis dans son cabinet, et je vis son portrait, à lui-même, placé sur son propre bureau. Cela me fit espérer que du moins il était un peu prenable par la vanité. Il entra, et je dois lui rendre la justice que ce fut par les bons sentiments que je parvins à l'ébranler. Je lui peignis les vicissitudes effrayantes de la popularité dont on pouvait lui citer des exemples chaque jour. « Dans 6 mois, lui dis-je, vous n'aurez peut-être plus de pouvoir. » Avant 6 mois, il périt sur l'échafaud. « Sauvez M. de Lally et M. de Jaucourt. Réservez-vous un souvenir doux et consolant pour l'époque où vous serez peut-être proscrit à votre tour. » Manuel était un homme remuable, entraîné par ses passions, mais capable de mouvements honnêtes, car c'est pour avoir défendu le roi qu'il fut condamné à mort. Il m'écrivit, le 1er septembre, que M. de Condorcet avait obtenu la liberté de M. de Lally, et qu'à ma prière, il venait de faire mettre M. de Jaucourt en liberté. Heureuse d'avoir sauvé la vie d'un homme aussi estimable, je résolus de partir le lendemain, mais je m'engageai à prendre, hors de la barrière, l'abbé de Montesquiou, aussi proscrit, et à le conduire, déguisé en domestique, jusqu'en Suisse. Pour que le changement fût plus facile et plus sûr, je donnai à l'un de ces gens le passeport d'un des miens, et nous convînmes de la place où je trouverais l'abbé de Montesquiou sur le grand chemin. Il était donc impossible de manquer à ce rendez-vous, dont l'heure et le lieu étaient fixés, sans exposer celui qui m'attendait à faire naître les soupçons des patrouilles qui parcouraient les grandes routes. La nouvelle de la prise de Longwy et de Verdun était arrivée le matin du 2 septembre. On entendait de nouveau de toutes parts cet effrayant tocsin dont le souvenir n'était que trop gravé dans mon âme par la nuit du 10 août. On voulut m'empêcher de partir, mais pouvais-je compromettre la sûreté d'un homme qui s'était alors confié à moi? J'avais des passeports très en règle, et je me figurais que le mieux serait de sortir en berline à 6 chevaux, avec mes gens en grande livrée. Il me semblait qu'en me voyant dans cet apparat, on me croirait le droit de partir et qu'on me laisserait passer. C'était très mal combiné, car ce qu'il faut avant tout dans de tels moments, c'est de ne pas frapper l'imagination du peuple, et la plus mauvaise chaise de poste m'aurait conduite plus sûrement. À peine ma voiture a-t-elle fait 4 pas qu'au bruit des fouets des postillons, un essaim de vieille femme, sortie de l'enfer, se jette sur mes chevaux et crie qu'on doit m'arrêter, que j'emporte avec moi l'or de la nation, que je vais rejoindre les ennemis, que sais-je, 1000 autres injures plus absurdes encore. Ces femmes attirent la foule à l'instant, et des gens du peuple, avec des physionomies féroces, se saisissent de mes postillons et leur ordonnent de me mener à l'assemblée de la section du quartier où je demeurais, le faubourg Saint-Germain. En descendant de voiture, j'eus le temps de dire tout bas au domestique de l'abbé de Montesquiou de s'en aller et d'avertir son maître. J'entrai dans cette assemblée dont les délibérations avaient l'air d'une insurrection en permanence. Celui qui se disait le président me déclara que j'étais dénoncé comme voulant emmener avec moi des proscrits et qu'on allait examiner mes gens. Il trouva qu'il en manquait un désigné sur mon passeport, c'était celui que j'avais renvoyé, et en conséquence de cette erreur, il exigea que je fusse conduite par un gendarme à l'hôtel de ville. Rien n'était plus effrayant qu'un tel ordre. Il fallait traverser la moitié de Paris et descendre sur la place de Grève, en face de l'hôtel de ville. Or, c'était sur les degrés mêmes de l'escalier de cet hôtel que plusieurs personnes avaient été massacrées le 10 août. Aucune femme n'avait encore péri, mais le lendemain, la princesse de Lamballe fut assassinée par le peuple, dont la fureur était déjà telle que tous les yeux semblaient demander du sang. Je fus 3 heures à me rendre du faubourg Saint-Germain à l'hôtel de ville. On me conduisit, au pas, à travers une foule immense, qui m'assaillait par des cris de mort. Ce n'était pas moi qu'on injuriait, à peine alors me connaissait-on. Mais une grande voiture et des habits galonnés représentaient, aux yeux du peuple, ceux qu'il devait massacrer. Ne sachant pas encore combien dans les révolutions l'homme devient inhumain, je m'adressai 2 ou 3 fois aux gendarmes qui passaient près de ma voiture, pour leur demander du secours. Ils me répondirent par les gestes les plus dédaigneux et les plus menaçants. J'étais grosse, et cela ne les désarmait pas. Tout au contraire, ils étaient d'autant plus irrités qu'il se sentait plus coupable. Néanmoins, le gendarme qu'on avait mis dans ma voiture n'étant point animé par ses camarades, se laissa toucher par ma situation, et il me promit de me défendre au péril de sa vie. Le moment le plus dangereux devait être à la place de grève, mais j'eus le temps de m'y préparer d'avance, et les figures dont j'étais entouré avaient une expression si méchante que l'aversion qu'elles m'inspiraient me donnait plus de force. Je sortis de ma voiture au milieu d'une multitude armée, et je m'avançai sous une voûte de pique. Comme je montais l'escalier, également hérissé de lances, un homme dirigea contre moi celle qu'il tenait dans sa main. Mon gendarme m'en garantit avec son sabre. Si j'étais tombé dans cet instant, c'en était fait de ma vie. Car il est de la nature du peuple de respecter ce qui est encore debout, mais quand la victime est déjà frappée, il l'achève. J'arrivai donc enfin à cette commune présidée par Robespierre, et je respirai, parce que j'échappais à la populace. Quel protecteur cependant que Robespierre ! Collot d'Herbois et Billot Varennes lui servaient de secrétaire, et ce dernier avait conservé sa barbe depuis 15 jours pour se mettre plus sûrement à l'abri de tout soupçon d'aristocratie. La salle était comble de gens du peuple. Les femmes, les enfants, les hommes criaient de toutes leurs forces « Vive la nation !» Le bureau de la commune, étant un peu élevé, permettait à ceux qui s'y trouvaient placés de se parler. On m'y avait fait asseoir, et pendant que je reprenais mes sens, le bailli de Virieux, envoyé de Parme, qui avait été arrêté en même temps que moi, se leva pour déclarer qu'il ne me connaissait pas, que mon affaire, quelle qu'elle fût, n'avait aucun rapport avec la sienne, et qu'on ne devait pas nous confondre ensemble. Le manque de chevalerie du pauvre homme me déplut, et cela m'inspira un désir d'autant plus vif de m'être utile à moi-même, puisqu'il ne paraissait pas que le bailli de Virieux eût envie de m'en épargner le soin. Je me levai donc, et je représentai le droit que j'avais de partir comme ambassadrice de Suède, et les passeports qu'on m'avait donnés en conséquence de ce droit. Dans ce moment, Manuel arriva. Il fut très étonné de me voir dans une si triste position, et, répondant aussitôt de moi, jusqu'à ce que la commune eût décidé de mon sort, il me fit quitter cette terrible place et m'enferma avec ma femme de chambre dans son cabinet. Nous restâmes là 6 heures à l'attendre, mourant de faim, de soif et de peur. La fenêtre de l'appartement de Manuel donnait sur la place de Grève, et nous voyions les assassins revenir des prisons avec des bras nus et sanglants et poussant des cris horribles. Ma voiture chargée était restée au milieu de la place, et le peuple se préparait à la piller, lorsque j'aperçus un grand homme, en habit de garde national, qui monta sur le siège et défendit à la populace de rien dérober. Il passa 2 heures à défendre mes bagages, et je ne pouvais concevoir comment un si mince intérêt l'occupait au milieu de circonstances si effroyables. Le soir, cet homme rentra dans la chambre où l'on me tenait renfermé, accompagnant Manuel. C'était le brasseur Santerre, si cruellement connu depuis. Il avait été plusieurs fois témoin et distributeur, dans le faubourg Saint-Antoine où il demeurait, des approvisionnements de blé envoyés par mon père dans les temps de disette, et il en conservait de la reconnaissance. D'ailleurs, ne voulant pas, comme il l'aurait dû en sa qualité de commandant, courir au secours des prisonniers, garder ma voiture lui servait de prétexte. Il voulut s'en vanter auprès de moi, mais je ne pus m'empêcher de lui rappeler ce qu'il devait faire dans un pareil moment. Dès que Manuel me revit, il s'écria avec beaucoup d'émotion « Ah, que je suis bien aise d'avoir mis hier vos 2 amis en liberté !» En effet, il souffrait amèrement des assassinats qui venaient de se commettre, mais il n'avait déjà plus le pouvoir de s'y opposer. L'abîme s'entrouvait derrière les pas de chaque homme qui acquérait de l'autorité. Et dès qu'il reculait, il y tombait. Manuel, à la nuit, me ramena chez moi dans ma voiture. Il aurait craint de se dépopulariser en me conduisant de jour. Les réverbères n'étaient point allumés dans les rues, mais on rencontrait beaucoup d'hommes avec des flambeaux dont la lueur causait plus d'effroi que l'obscurité même. Souvent, on arrêtait Manuel pour lui demander qui il était, mais quand il répondait, le procureur de la commune, cette dignité révolutionnaire était respectueusement saluée. Arrivé chez moi, Manuel me dit qu'on m'expédierait un nouveau passeport sans qu'il me fût permis d'emmener aucune autre personne pour me suivre que ma femme de chambre. Un gendarme devait me conduire jusqu'à la frontière. Le lendemain, Tallien, le même qui délivra, 20 mois après, la France de Robespierre aux 9 thermidor, vint chez moi, chargé par la commune de m'accompagner jusqu'à la barrière. À chaque instant, on apprenait de nouveaux massacres. Plusieurs personnes, très compromises alors, étaient dans ma chambre. Je priai Tallien de ne pas les nommer. Il s'y engagea et tint sa promesse. Je montai dans ma voiture avec lui et nous nous quittâmes sans avoir pu nous dire mutuellement notre pensée. La circonstance glaçait la parole sur les lèvres. Je rencontrai encore dans les environs de Paris quelques difficultés dont je me tirais. Mais, en s'éloignant de la capitale, le flot de la tempête semblait s'apaiser, et dans les montagnes du Jura, rien ne rappelait l'agitation épouvantable dont Paris était le théâtre. Cependant, on entendait dire partout aux Français qu'ils voulaient repousser les étrangers. Je l'avouerai, dans cet instant, je ne voyais d'étrangers que les assassins sous les poignards desquels j'avais laissé mes amis, la famille royale et tous les honnêtes gens de France. Chapitre 11. Les étrangers repoussés de France en 1792. Les prisonniers d'Orléans avaient subi le sort des prisonniers de Paris, et les prêtres avaient été massacrés au pied des autels. La famille royale était captive au temple. Monsieur de Lafayette, fidèle aux vœux durables de la nation, la monarchie constitutionnelle, avait quitté son armée plutôt que de faire un serment contraire à celui qu'il venait de prêter au roi. Une convention nationale était convoquée, et la République fut proclamée en présence des rois victorieux, dont les armées n'étaient qu'à 40 lieues de Paris. Cependant, la plupart des officiers français étaient émigrés. Ce qu'il restait de troupes n'avait jamais fait la guerre, et l'administration était dans un état affreux. Il y avait de la grandeur dans une telle résolution, prise au milieu des plus grands périls. Bientôt elle fit revivre, dans tous les cœurs, l'intérêt que l'on prenait à la nation française. Et si, rentrés dans leur foyer, les guerriers vainqueurs eussent renversé les révolutionnaires, encore une fois la cause de la France était gagnée. Le général Dumouriez montra, dans cette première campagne de 1792, un talent qu'on ne peut oublier. Il sut mettre en œuvre avec habileté la force militaire qui, fondée par le patriotisme, a depuis servi l'ambition. À travers les horreurs dont cette époque était souillée, l'esprit public de 1792 avait quelque chose de vraiment admirable. Les citoyens devenus soldats se dévouaient à leur pays, et les calculs personnels, l'amour de l'argent et du pouvoir, n'entraient pour rien encore dans les efforts des armées françaises. Aussi l'Europe elle-même éprouva-t-elle une sorte de respect pour la résistance inattendue qu'elle rencontra. Bientôt après, la fureur du crime s'empara du parti dominateur, et, depuis, tous les vices ont succédé à tous les forfaits. Triste amélioration pour l'espèce humaine. Chapitre 12. Procès de Louis XVI. Quel sujet ! Il a été traité tant de fois que je ne me permets ici de retracer qu'un petit nombre d'observations particulières. Au mois d'octobre 1792, avant que l'horrible procès du roi fût commencé, avant que Louis XVI eût nommé ses défenseurs, M. Necker se présenta pour être chargé de cette noble et périlleuse fonction. Il publia un mémoire que la postérité recueillera comme un des témoignages les plus vrais et les plus désintéressés qu'on put rendre en faveur du vertueux monarque jeté dans les fers. L'on séquestra la fortune de M. Necker en France à compter du jour même où parut son mémoire justificatif de Louis XVI. M. de Malesherbes fut choisi par le roi pour son avocat auprès de la Convention nationale. L'affreuse mort de cet homme admirable et de sa famille l'emporte sur tout autre souvenir. Mais la haute raison et la sincère éloquence de l'écrit de M. Necker pour la défense du roi doivent en faire un document de l'histoire. On ne pouvait nier que Louis XVI, depuis son départ pour Varennes, ne se fut considéré comme captif, et en conséquence, il n'avait rien fait pour seconder l'établissement d'une constitution que les plus sincères efforts n'auraient peut-être pu maintenir. Mais avec quelle délicatesse M. Necker, qui croyait toujours à la force de la vérité, ne la présente-t-il pas dans cette circonstance ? Guillemets. Les hommes attentifs, les hommes justes, admireront dans le roi la patience et la modération qu'il a montrée lorsque tout changeait autour de lui et lorsqu'il était exposé sans cesse à tous les genres d'insultes. Mais s'il eût fait des fautes, s'il eût méconnu dans quelques points ses nouvelles obligations, ne serait-ce pas à la nouvelle forme du gouvernement qu'il faudrait s'en prendre ? Ne serait-ce pas à cette constitution où un monarque n'était rien qu'en apparence, où la royauté même se trouvait hors de place, où le chef du pouvoir exécutif ne pouvait discerner ni ce qu'il était, ni ce qu'il devait être, où il était trompé jusque par les mots et par les divers sens qu'on pouvait leur donner, où il était roi sans aucun ascendant, où il occupait le trône sans jouir d'aucun respect, où il semblait en possession du droit de commander sans avoir le moyen de se faire obéir, où il était successivement et selon le libre arbitre d'une seule assemblée délibérante, tantôt un simple fonctionnaire public et tantôt le représentant héréditaire de la nation. Comment pourrait-on exiger d'un monarque, mis tout à coup dans les liens d'un système politique aussi obscur que bizarre et finalement proscrit par les députés de la nation eux-mêmes, comment pourrait-on exiger de lui d'être seul conséquent au milieu de la variation continuelle des idées ? Et ne serait-ce pas une injustice extrême de juger un monarque sur tous ses projets, sur toutes ses pensées, dans le cours d'une révolution tellement extraordinaire qu'il aurait eu besoin d'être en accord parfait, non seulement avec les choses connues, mais encore avec toutes celles dont on aurait vainement essayé de se former d'avance une juste idée. Fin des guillemets. M. Necker retrace ensuite dans son mémoire les bienfaits du règne de Louis XVI avant la Révolution. Les restes de la servitude abolie, la question préparatoire interdite, la corvée supprimée, les administrations provinciales établies, les états généraux convoqués. Guillemets. N'est-ce pas Louis XVI, dit-il, qui, en s'occupant sans cesse de l'amélioration des prisons et des hôpitaux, a porté les regards d'un père tendre et d'un ami pitoyable dans les asiles de la misère et dans les réduits de l'infortune ou de l'erreur. N'est-ce pas lui qui, seul peut-être avec Saint-Louis entre tous les chefs de l'Empire français, a donné le rare exemple de la pureté des mœurs ? Ne lui accorderont-on pas encore le mérite particulier d'avoir été religieux sans superstition, et scrupuleux sans intolérance ? Et n'est-ce pas de lui qu'une partie des habitants de la France, les protestants, persécutés sous tant de règnes, ont reçu non seulement une sauvegarde légale, mais encore un état civil qui les admettait au partage de tous les avantages de l'ordre social ? Ces bienfaits sont dans le temps passé, mais la vertu de la reconnaissance s'applique-t-elle à d'autres époques, à d'autres portions de la vie ? Fin des guillemets. On est encore plus frappé du manque d'égard envers Louis XVI dans le cours de son procès que de sa condamnation même. Quand le président de la Convention dit à celui qui fut son roi « Louis, vous pouvez vous asseoir », on se sent plus d'indignation que lors même qu'on le voit accusé de forfaits qu'il n'avait jamais commis. Il faut être sorti de la poussière pour ne pas respecter de longs souvenirs, surtout quand le malheur les consacre. Et la vulgarité, jointe au crime, inspire autant de mépris que d'horreur. Aucun homme vraiment supérieur ne s'est fait remarquer parmi ceux qui ont entraîné la Convention à condamner le roi. Le flot populaire s'élevait et s'abaissait à de certains mots, à de certaines phrases, sans que le talent d'un orateur aussi éloquent que Vergniaud pût influer sur les esprits. Il est vrai que la plupart des députés qui défendirent le roi dans la Convention se mirent sur un détestable terrain. Ils commencèrent par déclarer qu'il était coupable. L'un d'eux, entre autres, dit à la tribune que Louis XVI était un traître, mais que la nation devait lui pardonner. Et ils appelaient cela de la tactique d'assemblée. Ils prétendaient qu'il fallait ménager l'opinion dominante pour la modérer quand il en serait temps. Comment, avec cette prudence cauteleuse, auraient-ils pu lutter contre leurs ennemis qui s'élançaient de toutes leurs forces sur la victime? En France, on capitule toujours avec la majorité lors même qu'on veut la combattre. Et cette misérable adresse diminue certainement les moyens au lieu de les accroître. La puissance de la minorité ne peut consister que dans l'énergie de la conviction. Qu'est-ce que des faibles en nombre qui sont faibles aussi en sentiment? Saint-Just, après avoir cherché vainement des faits authentiques contre le roi, finit par s'écrier « Nul ne peut régner innocemment ». Et rien ne prouvait mieux la nécessité de l'inviolabilité des rois que cette maxime. Car il n'est point de monarque qui ne pût être accusé d'une manière quelconque si l'on ne mettait pas une barrière constitutionnelle autour de lui. Celle qui environnait le trône de Louis XVI devait être sacrée plus qu'aucune autre, puisqu'elle n'était pas sous-entendue, comme ailleurs, mais solennellement garantie. Les Girondins voulaient sauver le roi, et pour y parvenir, ils demandaient l'appel au peuple. Mais en demandant cet appel, ils ne cessaient de se mettre en mesure avec les Jacobins, en répétant continuellement que le roi méritait la mort. C'était désintéressé entièrement de sa cause. Louis XVI, dit Birotteau, était déjà condamné dans mon cœur, mais je demande l'appel au peuple afin qu'il soit condamné par lui. Les Girondins avaient raison d'exiger un tribunal compétent, s'il pouvait en exister un dans cette cause. Mais combien n'aurait-il pas produit plus d'effets s'il l'avait réclamé en faveur d'un innocent, au lieu de l'invoquer pour un prétendu coupable? Les Français, on ne saurait trop le répéter, n'ont pas encore appris, dans la carrière civile, à être modérés quand ils sont forts et hardis quand ils sont faibles. Ils devraient transporter dans la politique toutes leurs vertus guerrières. Les affaires en iraient mieux. Ce qu'on a le plus de peine à concevoir dans cette terrible discussion de la Convention nationale, c'est l'abondance de paroles que chacun prodiguait dans une semblable circonstance. On s'attendait surtout à trouver dans ceux qui voulaient la mort du roi une fureur concentrée. Mais montrer de l'esprit, mais faire des phrases, quelle persistance de vanité dans une telle scène! Thomas Paine était le plus violent des démocrates américains. Cependant, comme il n'y avait point de calcul ni d'hypocrisie dans ses exagérations en politique, quand il fut question du jugement de Louis XVI, il donna le seul avis qui pût encore honorer la France, s'il eût été adopté. C'était d'offrir au roi l'asile de l'Amérique. « Les Américains sont reconnaissants envers lui, disait Paine, parce qu'il a favorisé leur indépendance. » À ne considérer cette résolution que sous le point de vue républicain, c'était la seule qui put affaiblir alors en France l'intérêt pour la royauté. Louis XVI n'avait pas les talents qu'il faut pour reconquérir à main armée une couronne, une situation qui n'aurait point excité la pitié, n'eût pas fait naître le dévouement. La mort que l'on donnait au plus honnête homme de France, mais en même temps au moins redoutable, à celui qui, pour ainsi dire, ne s'était pas mêlé de son sort, ne pouvait être qu'un horrible hommage que l'on rendait encore à son ancienne grandeur. Il y aurait eu plus de républicanisme dans une résolution qui aurait montré moins de crainte et plus de justice. Louis XVI ne refusa point, comme Charles Ier, de reconnaître le tribunal devant lequel il fut traduit, et répondit à toutes les questions qui lui furent adressées, avec une douceur inaltérable. Le président demandant à Louis XVI pourquoi il avait rassemblé les troupes au château, le 10 août, il répondit « Le château était menacé. Toutes les autorités constituées l'ont vu, et comme j'étais moi-même une autorité constituée, il était de mon devoir de me défendre. » Quelle manière modeste et indifférente de parler de soi, et par quel éclat d'éloquence pourrait-on attendrir plus profondément? M. de Malesherbes, ancien ministre du roi, se présenta comme son défenseur. Il était l'un des trois hommes d'État, lui, M. Turgot et M. Necker, qui avaient conseillé à Louis XVI l'adoption volontaire des principes de la liberté. Il fut forcé, de même que les deux autres, à renoncer à sa place, à cause de ses opinions dont les parlements étaient ennemis. Et maintenant, malgré son âge avancé, il reparaissait pour plaider la cause du roi en présence du peuple, comme jadis il avait plaidé celle du peuple auprès du roi. Mais le nouveau maître fut implacable. Gara, alors ministre de la justice, et dans des temps plus heureux pour lui, l'un des meilleurs écrivains de France, Gara, dis-je, a consigné dans ses mémoires particuliers que, lorsqu'il se vit réduit par sa funeste place à porter au roi la sentence qui le condamnait à mort, le roi montra le calme le plus admirable en l'écoutant. Une fois seulement, il exprima par un geste son mépris et son indignation. C'était à l'article qu'il accusait d'avoir voulu verser le sang du peuple français. Sa conscience se révolta lorsque tous ses autres sentiments étaient contenus. Le matin même de son exécution, le roi dit à l'un de ses serviteurs « Vous irez vers la reine ». Puis, se reprenant, il répéta « Vous irez vers ma femme ». Il se soumettait, dans cet instant même, à la privation de son rang qui lui avait été imposé par ses meurtriers. Sans doute, il croyait que la destinée, en toute chose, exécute les desseins de Dieu sur ses créatures. Le testament du roi fait connaître tout son caractère. La simplicité la plus touchante y règne. Chaque mot est une vertu, et l'on y voit toutes les lumières qu'un esprit juste, dans de certaines bornes, et une bonté infinie, peuvent inspirer. La condamnation de Louis XVI a tellement ému tous les cœurs que la Révolution, pendant plusieurs années, en a été comme maudite.